Merci Seigneur d'être venu pour me chercher dans la nuit où je me trouvais seul désemparé. Merci Seigneur de m'avoir donné ton amour sans rien me demander en retour, sans me condamner. Jésus, tu as transformé ma vie, tu en as fait une harmonie. Je ne suis plus seul ici-bas, car tu es là. Jésus, tu me remplis de bonheur et ta joie inonde mon cœur. Tu m'as libéré, pardonné. Alléluia. Merci Seigneur de m'avoir donné ton Esprit Saint pour me guider sur le chemin par ta sûre main. Oh, merci Seigneur pour ta parole qui si souvent me fortifie et puis m'apprend à rester confiant. Jésus, tu me remplis de bonheur et ta joie inonde mon cœur. Tu m'as libéré, pardonné. Alléluia. Jésus, tu me remplis de bonheur et ta joie inonde mon cœur. Tu m'as libéré, pardonné. Alléluia. Oh. Merci Seigneur Jésus de ce qu'un jour tu as eu pitié, compassion de moi. Seigneur, c'est toi qui m'as cherché et tu m'as trouvé. Tu m'as libéré, tu m'as pardonné, tu m'as justifié avec Dieu, tu m'as réconcilié. Alors quoi te dire d'autre, Seigneur, si ce n'est merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur d'être venu pour me chercher dans la nuit où je me trouvais seul désemparé. Oh merci Seigneur de m'avoir donné ton
ton amour sans rien me demander en retour, sans me condamner. Jésus, tu as transformé ma vie, tu en as fait une harmonie. Je ne suis plus seul ici-bas, car tu es là. Jésus, tu me remplis de bonheur et ta joie inonde mon cœur. Tu m'as libéré, pardonné. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu.
Voilà, alors messieurs, dames, frères et sœurs en Christ, nous allons regarder dans les Saintes Écritures et pendant que je préparais le sujet, je me disais à moi-même que lorsque je vais prendre la parole, je vais dire aux frères et sœurs, à l'Église, en l'occurrence à vous, que je vous emmène en voyage. Voulez-vous que nous allions en voyage? Vous avez remarqué, je n'ai pas dit je vous emmène un pèlerinage. Hein. Je vous emmène en voyage. Nous allons tout en étant sur place faire un voyage. Tout en étant sur place. Nous allons monter dans un charter. Et nous allons prendre l'envol pour nous retrouver en Israël. Alors nous allons atterrir à Jérusalem. Et ce jour, c'est un jour de fête. Jérusalem est en pleine effervescence. Un jour de fête. Et dans la logique, les fêtes de cette époque, ce sont des fêtes qu'on appelle des fêtes solennelles. Ce sont des fêtes sacerdotales et Jérusalem est une ville sacerdotale, c'est-à-dire qui fait partie intégrante dans la célébration des fêtes de l'Éternel. Et dans la logique, pour tout juif qui se respecte, il est absolument indispensable de ne pas se retrouver ailleurs que là où il y a les festivités pour glorifier Dieu. Vous suivez toujours? Est-ce que vous êtes à bord du charter? Bien. Alors maintenant, on a atterri. Et je vous prie de me suivre, soit par groupe de 10 pour avancer, soit en file indienne, peu importe. Suivez le guide. Est-ce que vous suivez le guide? Bien. Alors le guide vous amène avec le schéma de l'écriture, à monter à la fête. Et on va se retrouver dans l'évangile de Jean. Je vous ai bien dit que tout en étant sur place, on va voyager. Hein? Alors, ce jour-là, regardez ce que la Bible nous rapporte. Évangile de Jean, chapitre 5, verset 1er. Donc, je vous ai bien dit qu'il y a les fêtes qu'on appelle solennelles, et ce jour-là est un jour de fête. J'ai bien l'impression de vous expliquer que pour tout bon juif qui se respecte, à cause de ces fêtes solennelles, qui font partie intégrante de la vie religieuse, il est important de ne pas louper ça. Donc, tout le monde va à la fête. Regardez la Bible, ce que la Bible nous dit. Jean 5, verset 1er. Après cela, il y eut une fête, dites avec moi, des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Et aussitôt après, la Bible nous donne
un tableau. Après avoir parlé de Jésus qui est monté à Jérusalem, la Bible nous dit, « Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, un lieu stratégique, la porte des brebis, pour vous qui connaissez l'Écriture du temps de Néhémie, c'est l'une des premières portes qui a été reconstruite lorsque Néhémie s'est levé pour pouvoir réparer les murailles de Jérusalem. Mais ça, nous sommes sur le terrain de l'enseignement. Passons-y assez rapidement. Mais néanmoins, très important, car c'était par cette porte qu'on faisait entrer les brebis destinées au sacrifice. Car elles se trouvaient vis-à-vis du temple de Jérusalem. Et regardons la suite du récit. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine. Chose anodine, peut-être pour certains insignifiant, mais pas tant que ça quand nous regardons un peu la suite du récit. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Beth-Esda. Et ce mot Bethesda, la Bible nous dit que cette piscine a 5 portiques. Et pour ceux qui ne le savent pas, le mot Bethesda signifie au travers deux racines, la racine Beth qui signifie maison et Esda qui signifie miséricorde. Donc, compléter l'ensemble maison de miséricorde. Et aussitôt après, ce qui nous est montré est assez particulier. Sous ces portiques, une piscine avec 5 portiques. Si j'osais, je m'arrêterais avec vous sur le chiffre 5, mais je vais vous amener sur le terrain de l'enseignement et ce n'est pas le moment. Mais quand même, je vous le dis. Ça, c'est le pastorat qui ressort. Hein. Dans les Saintes Écritures, le chiffre 5 a une double particularité. Dans le sens où le chiffre 5 nous parle, premièrement, de la faiblesse de l'homme quant à ses propres responsabilités envers Dieu, faiblesse de l'homme, mais c'est en même temps le chiffre qui nous parle de la manifestation de la grâce de Dieu. Écoutez, je vous connais tellement, je sens que vous n'avez pas assez. Eh bien, si je sens que vous n'avez pas assez, je vais vous donner le complément. Vous voulez le complément? Vous êtes sûr que vous voulez le complément? Bien, alors le complément, c'est ça. Si je vous fais ça, vous voyez le chiffre? Et si j'enlève ça, il reste. Alors voilà l'explication. Le chiffre 10 dans les Saintes Écritures met en évidence la responsabilité de l'homme envers Dieu. Responsable, 10 doigts de la main. C'est-à-dire Dieu nous rend responsables, les mains nous parlent du service. 10 doigts de pied. Responsable devant Dieu d'une marche sanctifiée. Mais si j'enlève 5, il reste, j'ai des faiblesses dans ma marche spirituelle, j'ai des faiblesses dans mon service pour Christ. Mais ma faiblesse, le chiffre 5 a un double sens, est couverte toujours par la grâce de Dieu. Ça vous convient? Là, vous êtes au clair? Voilà, donc nous revenons à notre texte. Donc, une piscine avec 5 portiques. Je vais vous donner un petit aperçu hein, du chiffre 5. Mais regardez le spectacle. Regardez, c'est ça le spectacle. Il s'appelle en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Sous ces 5 portiques, était couché. Lisez un grand nombre de malades. N'allez pas si vite, s'il vous plaît. Lisez l'Écriture. Était couché sous ces 5 portiques un grand nombre de malades. Et si la Bible ne nous dit pas exactement combien il y avait, mais quand je lis un grand nombre, je suis amené à comprendre tout de suite, à saisir qu'il y en avait, dites avec moi, beaucoup. Il y en avait beaucoup. Et ça ne vous étonne pas que dans une piscine où on vient pour nager, il y ait un grand nombre de malades, mais la piscine était pour eux comme un hôpital où ils pouvaient trouver un peu de refuge. Je ne sais pas s'il y avait des infirmières dans la piscine, s'il y avait des aides-soignantes dans la piscine, s'il y avait des médecins dans la piscine, mais le spectacle qui nous est montré, c'est qu'il y avait un grand nombre de malades. Et puis l'Écriture prend soin de nous détailler un petit peu la situation au travers de ce qui suit. Regardez la suite. Un grand nombre de malades. Notez, première catégorie des aveugles. Deuxième catégorie, des boiteux. Troisième catégorie, des paralytiques. Et tous, ils attendaient. Ils vivaient dans l'espérance. Parce que la parole de Dieu nous rappelle qu'il y avait dans cette piscine, d'où nous comprenons pourquoi elle s'appelait Bethesda, maison de miséricorde, il y avait une manifestation occasionnelle de la grâce de Dieu qui faisait que lorsque l'eau de la piscine était agitée par un ange, quelle que soit la maladie, le malade qui descendait le premier dans la piscine, il était instantanément guéri. Alors imagine un petit peu, si moi j'étais, par exemple là, dans ma souffrance, j'aurais été simplement la tête penchée, mais je pencherais toujours la tête du côté de la piscine. Même si je fermais un œil, je l'ai laissé un œil ouvert parce que je ne voulais pas que si l'ange descend ce jour-là et puis la piscine est agitée, je loupe le coche. Donc tous avaient les yeux fixés sur l'eau de la piscine. Parce que certainement, ils guettaient la descente de l'ange. Et ce que je peux déduire, c'est que dans cette piscine, un peu comme cela se vit aujourd'hui, c'était un égoïsme exacerbé, chacun pour soi, et puis Dieu pour tous. Eh bien, laissez-moi vous dire que le spectacle qui nous est montré là, dans cette piscine de Bethesda, ce jour de la fête, serait un peu à l'image de notre société d'aujourd'hui. Oui, un peu l'image de la société. Premièrement, il y en a certains qui ne vivent que pour la fête. Les plaisirs, les amusements, le boire et le manger, les spectacles et tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire, ils ne sont jamais saturés de plaisir. Mais tout plaisir qui nous satisferait dans notre chair, nous amènerait obligatoirement à négliger l'essentiel selon Dieu, c'est-à-dire notre âme. Moi, je ne juge personne. Je ne fais que comprendre leur situation, car c'est exactement ce que je vivais avant que Jésus ne m'eût rencontré. Ma vie se cantonnait en plaisir. Boire, manger, la vie nocturne. Ah, écoutez, moi, j'étais chanteur de cabaret, j'étais chanteur d'orchestre. Et dans ma vie, dès ma jeunesse, j'ai commencé à faire la musique, j'avais aux alentours de 17, 18 ans, même un peu plus tôt. Mais je me suis vraiment ancré dans la musique vers cet âge-là. Et quand je suis arrivé à Paris en novembre 1972, ma première démarche a été de chercher un orchestre où je pourrais continuer à pratiquer ma musique. J'étais chanteur. La 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 la. Quand j'étais chanteur. Et dans cette vie que je menais, j'étais chaque samedi une ville différente dans la France. Marseille, Toulon, Colmar, Le Havre, Nancy, Strasbourg, J'ai fait des galas reines. Enfin, j'ai fait des galas pratiquement dans toute la France. Mon orchestre de l'époque s'appelait El Nuevo Combo de Paris. Mais oui, je n'ai pas honte de le dire, parce que ça, c'était avant. Et à force de faire danser les gens, alors un jour moi-même, j'ai déchanté. Quand ma vie a basculé dans la souffrance, dans la douleur, avec un foyer brisé, des problèmes à n'en pas s'en voir compter, des belles promesses qui m'ont été faites quand j'ai cherché du secours auprès des hommes, eh bien, lorsque les promesses ont été faites pour passer à l'action, il n'y avait plus personne. Alors je me suis retrouvé seul, isolé, dans la souffrance, dans la misère, dans la douleur, et ma vie a basculé, et je ne me suis vu que placé sur une pente glissante, et je descendais, jusqu'à ce que j'ai touché le fond. Monsieur, madame, j'ai touché le fond. Et c'est quand j'ai touché le fond que Dieu est venu me chercher. Vous vous rappelez ce matin, dans le message qu'on a partagé, Dieu nous a montré que nos aptitudes ne doivent pas constituer un frein à ce que Dieu veut faire dans nos vies. Alors, quand on peut compter sur soi-même, on espère toujours s'en sortir. Vous savez, l'homme est champion pour employer des stratagèmes pour essayer d'arranger les situations jusqu'au moment où Dieu met en échec tous ses plans. Dieu met en échec tous ses plans parce qu'il espère enfin que vous comprendriez que c'est lui qui a le pouvoir de vous secourir efficacement, merveilleusement, et de changer une situation misérable, triste, abominable, en une vie de paix, d'amour, d'espérance, de joie et d'assurance. C'est ça qu'il a fait pour le frère Claude Gentil, qui est devenu un serviteur dans sa main, que Dieu soit béni. Spectacle particulier dans cette piscine de Bethesda, un peu à l'image de notre société. Je relis un peu ce qui nous est donné. Un grand nombre de malades. Et je me suis laissé aller à penser avec les malades, les aveugles, les boiteux, les paralytiques, si tous ceux qui nous sont présentés pouvaient s'en sortir par eux-mêmes, jamais leur nom serait cité dans ce livre. Et là, nous sommes dans une situation où une liste nous est présentée, une liste de personnes qui ont besoin d'une intervention extérieure, de secours de quelqu'un, le secours d'une autre personne, le secours de quelqu'un qui a plus de compétences et de capacités qu'il n'en possède. Mais cet après-midi, monsieur, madame, il y a quelqu'un qui est qualifié pour ça, alléluia. Il est spécialiste, il est qualifié, il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et ce que le médecin n'a pas pu faire pour toi, te délivrer de la maladie, Jésus te rappelle qu'il est expert en toute maladie. Les aveugles, ce sont des gens qui ne peuvent pas voir. Ils sont incapables de voir. Lorsque vous êtes né aveugle de naissance, personne ne peut vous guérir. Mais Jésus est capable de donner la vue à un aveugle même de naissance. Alléluia. C'est pourquoi j'aime Jésus, monsieur, madame. Excusez-moi, je suis un petit peu virulent, mais c'est l'animation du Saint-Esprit en moi. Parce que je voudrais que vous compreniez, monsieur, madame, cet après-midi. Ce n'est pas l'énergie de ma chair qui me gouverne, mais c'est l'action du Saint-Esprit de Dieu. Oh, pasteur Célestin a dit que tu mettes ton double onction sous ton serviteur. Je crois qu'il a été exaucé. Alléluia. Un aveugle est incapable d'ouvrir ses yeux lui-même. Oh, il a besoin de quelqu'un pour le guider. Peut-être vous avez vu autour de vous des aveugles qui ont une canne blanche. Il se déplace. Peut-être même vous avez eu de la compassion pour lui. Il dit, monsieur l'aveugle, monsieur, voulez-vous que je vous aide? Il a dit, non, laissez, avec sa canne blanche. Il est habitué, il est exercé à retrouver son chemin. Mais cet après-midi, monsieur, madame, ce n'est pas de tes yeux physiques dont je te parle. Ce sont les yeux de ton cœur. Et malgré le fait que tu as une bonne vision, tu es incapable de trouver ton chemin toi-même. Or, il y a quelqu'un qui dit,
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et savez-vous ce qu'il rajoute après? Jean 14, 6. Nul, personne ne vient au Père que par moi. Donc cet après-midi, je suis l'instrument pour vous montrer comment faire pour aller vers lui. Et c'est le Saint-Esprit qui va vous guider. Et le travail de l'Esprit Saint va partir à l'intérieur de votre conscience, où Dieu envoie sa lumière, dans votre cœur, où Dieu vous éclaire, afin que vous compreniez que ce n'est pas la parole de l'homme qui est importante, mais que vous receviez cette parole comme venant de la part de Dieu, comme elle est réellement. Quand c'est à ce moment qu'elle commence à produire son effet à l'intérieur. Lorsque Jésus vous éclaire, laissez-moi vous dire que vous n'êtes plus dans les ténèbres. Moi, j'ai été de nombreuses années dans les ténèbres, malgré le fait que j'étais un homme religieux. Mais quand l'Évangile est arrivé, quand Jésus m'a parlé, quand Jésus m'a éclairé, il a détruit la puissance des ténèbres. Et la lumière a jailli. Et j'ai pu avoir cette réflexion comme l'aveugle de l'Évangile de Jean au chapitre 9, verset 1er. Il a dit, maintenant je sais une chose. Avant j'étais aveugle, mais maintenant je... Alors où sont ceux qui étaient aveugles et qui maintenant voient? Lever la main, s'il vous plaît. Ah, je suis pas le seul, merci Seigneur. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'a pas suivi la route de tout le monde. Il a fait un détour pour aller à la piscine, là où je me retrouvais, avec ma misère et ma souffrance, comme il l'a fait ce jour-là. Deuxième catégorie avec les malades, les boiteux. Un boiteux, c'est quelqu'un qui, malheureusement, a du mal à marcher droit. J'essaie d'adopter une attitude pour vous montrer la réalité du boiteux, mais dans la vérité, il y a des gens qui sont nés avec des tares dans leurs membres. Et lorsqu'ils voient leurs semblables marcher droit, ils se disent en eux-mêmes, j'aurais tellement aimé marcher droit comme tout le monde. Mais cela veut dire qu'ils ont besoin non seulement d'une béquille, ils ont besoin de quelqu'un pour les soutenir. Ils ont besoin que leurs jambes soient redressées. Ils ont besoin, en quelque sorte, excusez-moi du terme, qu'on pratique sur eux une intervention chirurgicale. Mais même si la chirurgie a fait des progrès, la chirurgie ne pourra jamais te délivrer de ce dont tu es atteint dès lors que tu as commencé à avoir l'âge de raison, qui n'est pas autre chose que la conséquence du péché qui fait boiter l'être humain. Le péché fait de l'homme un boiteux. Boiteux de naissance. Eh bien, il y en avait un dans Acte 3. Boiteux de naissance. Et son importance était tellement considérable. Béni soit Dieu, il avait trouvé des gens qui chaque jour venaient le prendre, le chercher et l'amener à la belle porte du temple. Et là, à la belle porte du temple, on le déposait. Mais lorsqu'on le déposait, c'était afin qu'il dise, la charité, monsieur, dame. Une petite pièce pour manger, s'il vous plaît. Des fois, il en recevait, mais des fois, il n'en recevait pas. Alors, c'est pas tout le monde qui a un cœur disposé pour venir au secours de malheureux. Mais ce jour-là, deux hommes sont montés au temple. Et lorsqu'ils sont arrivés à proximité du temple, ils ont vu cet homme. Comme d'habitude. Mais ce jour-là, quoique les choses semblaient être comme d'habitude, c'était pas un jour comme les autres. Parce que Pierre et Jean étaient des serviteurs de Jésus-Christ. Et lorsqu'il a vu Pierre et Jean qui allaient rentrer dans le temple, eh bien, il s'est mis à les fixer, s'attendant à recevoir de quelles petites pièces. Et Pierre, de même que Jean, ils ont fixé leurs yeux sur cet homme. Et voici leur déclaration. Regarde-nous fixement. Et il se mit à les regarder, s'attendant à recevoir quelque chose. Alors voici la parole de l'apôtre Pierre. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Je te le communique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et puis le prenant par la main, il le fit lever, et aussitôt, au contact de la main, de Pierre et de la main du boiteux, la Bible nous dit, ses chevilles deviennent fermes.
Voici que celui qui était impotent, avec la parole qui lui a été donnée, le Saint-Esprit entre en action et le voici miraculé, délivré d'une paralysie qu'il avait, avec laquelle il était né. Vous savez, messieurs, dames, ce Jésus qui a libéré ce paralytique à la porte du temple, il est là cet après-midi. Et il peut te délivrer de la paralysie spirituelle dont tu es atteint depuis que tu es né et qui te rend incapable de marcher droit. Vous savez, la Bible nous dit, c'est une parole de l'Ecclésiaste, que Dieu a créé les hommes droits. Mais ils ont pris beaucoup de détours. Et ce détour n'est pas autre chose que les conséquences du péché qui fait l'homme sillonner, avoir exactement l'attitude du serpent. Parce que lorsque vous regardez le serpent, il ne circule jamais droit, mais il circule toujours en zigzag. Pourquoi ? C'est sa nature, mais c'est exactement ce que le péché fait dans le cœur et dans la vie de l'homme. On est incapable de marcher droit par sa main. On peut avoir le bon désir, on peut dire « je vais faire, je voudrais faire », mais on se retrouve rapidement dans une incapacité. Mentir, tromper, voler, dissimuler, c'est tout ce que le péché fait parce que l'homme est tordu dans sa nature humaine. Donc ça veut dire qu'il a besoin de quelqu'un pour le redresser. Si moi, en tant qu'agriculteur, rassurez-vous, je ne suis pas agriculteur, hein, je dis si moi, je plantais un petit arbre fruitier, et que malheureusement, je vois que lorsque mon petit arbre fruitier a commencé à se développer, au lieu de grandir droit, il grandit de travers, tordu. Alors, je n'ai pas besoin de faire ni 50 ans d'études, ni aller à l'ENA, ni à la Sorbonne. Je comprends simplement qu'il faut lui mettre un tuteur. Alors, je prends un morceau de bois, bien solide, je le plante à ses côtés. J'essaie de faire en sorte qu'il soit bien proche. Et même, je vais même le lier sur ma petite plante, mon petit arbre fruitier, et je vais le laisser maintenant, le tuteur, être utile pour redresser mon petit arbre fruitier qui, malheureusement, avait pris un mauvais pli. Alors, laisse-moi te dire que cet après-midi, tu as besoin que Jésus te donne un tuteur. Et il est capable de te redresser d'une manière merveilleuse. Moi qui vous parle, monsieur, madame, s'il y avait quelqu'un qui était plus tordu que moi, c'était pas possible. Il était tordu de la tête aux pieds. Oh, j'aurais aimé m'en sortir, mais j'en étais incapable. Mais quand Jésus est arrivé, quand Jésus vient, l'ennemi se retire, il dit un mot et son pouvoir n'est plus. Le Fils de Dieu voudrait à son empire soumettre aussi ton cœur vidé, lassé. Pasteur Gentil, vous devriez faire de l'opéra. Les malades, incapables de se guérir eux-mêmes. Mais béni soit Dieu, Jésus est allé dans la piscine. Les aveugles, atteints de cécité, besoin de quelqu'un pour les guider, besoin que la lumière jaillisse à l'intérieur de leur conscience pour les éclairer, afin qu'enfin les choses pour eux changent. Pourquoi, messieurs, dames, frères et sœurs? Parce qu'avec Jésus, les choses changent. Avec Jésus, les choses changent. Avec Jésus, les choses changent. Alléluia. Avec Jésus, les choses changent. Avec Jésus, les choses changent. Alléluia. Oui, avec Jésus, les choses changent. Une transformation à l'intérieur. Il change le cœur. Il change les pensées. Il transforme les choses à l'intérieur. Il brise le joug de Satan qui te gouverne par le péché. Même si tu as de la bonne volonté, tu prends de bonnes résolutions,
Ça dure 2 jours. Mais le 3e jour, le péché reprend sa place et t'entraîne encore pire. Alors, une autre catégorie nous est montrée avec les malades, les aveugles, les boiteux, les paralytiques. Les paralytiques, les paralytiques. Paralytique, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui t'empêche non seulement de marcher, mais t'empêche d'avancer. C'est-à-dire la paralysie a pour effet de te bloquer. Si quand tu es boiteux, tu marches, mais tu ne marches pas droit, quand tu es paralysé, tu es bloqué. Oh, je sais que vous me direz, pasteur gentil, mais écoutez, il y a beaucoup de paralysés qui marchent dans un fauteuil roulant. Oui, mais c'est le fauteuil qui roule. Mais ils sont toujours paralysés. Ils sont paralysés dans un fauteuil. Mais cet après-midi, ce n'est pas d'un fauteuil que tu as besoin. Alors de quoi j'ai besoin, pasteur? Tu as besoin de rencontrer Jésus. Tu as besoin de rencontrer celui qui brise toute paralysie dans une vie. Il le dégage. Il le détruit. Pour qu'enfin tu puisses marcher à l'aise. Avant, j'étais paralysé par le péché. Même si j'avais la religion, j'étais un homme paralysé. Mais quand Jésus m'a rencontré, alléluia, on va dire ça un petit peu. Oui. Jésus a délivré. Ah, j'agis sur le plan physique, mais ce n'est pas autant sur le physique qu'il agit. Il agit sur la vie spirituelle. Il a délivré mon âme de l'esclavage. Pourquoi je lis dans l'évangile de Luc, chapitre 8, que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement. Jésus m'a affranchi de la puissance du péché. Comme il veut le faire pour toi, comme il a fait à la piscine de Bethesda. Comme il a fait dans la vie de beaucoup d'êtres humains sur la terre. Mais la suite du récit nous montre que malgré le fait que tous avaient les yeux sur l'eau de la piscine, espérant que ce jour soit leur jour, puisqu'occasionnellement l'ange descendait de temps en temps. Mais qu'est-ce qu'une intervention d'un ange devant tant de situations de souffrance? Mais quand Jésus rentre dans la piscine, il se dirige directement vers une personne. Et je crois que cet après-midi, Jésus se dirige sur ta situation. Il connaît ta souffrance. Il sait depuis combien de temps soit tu es malade, depuis combien de temps tu es atteint de cécité spirituelle, depuis combien de temps tu es boiteux sur le plan spirituel, depuis combien de temps tu es paralysé sur le plan spirituel. Alors aujourd'hui, Jésus se déplace pour toi. Il s'arrête sur ta situation comme dans la piscine. Il s'est arrêté sur le cas d'un homme. La Bible nous dit que Jésus l'ayant vu et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps. Vous savez combien d'années? 38 ans. Mais écoutez, 38 ans, c'est une génération déjà, plus encore, vous pouvez rajouter. Et qu'est-ce que Jésus lui a posé comme question? Eh bien, Jésus lui a posé la question par rapport à la situation qu'il vivait. Comme il te pose la question aujourd'hui, de quoi veux-tu que je fasse pour toi? De quoi as-tu besoin? Quelle est ta situation? Quel est ton problème pour que je puisse m'en occuper? Quand Jésus lui a posé la question, veux-tu être guéri? Au lieu de dire, oui Seigneur, je veux être guéri. Mais écoutez, sa réponse, je la comprends. Je la comprends. Parce qu'il ne connaissait pas qui était celui qui lui posait la question. C'est ça. Parce qu'il savait qui était Jésus, mon frère Edgar. Ah, il ne lui a pas laissé passer une minute de plus, même pas une seconde de plus. Mais il ne savait pas qui était Jésus. Mais c'est ça l'ignorance dans le cœur de l'homme. Trop souvent, nous galérons. Trop souvent, on tire la langue. Trop souvent, on frappe chez le voisin. Trop souvent, on demande du secours à droite et à gauche. Alors que Jésus nous pose la question parce qu'il a la solution au problème. Veux-tu être guéri? Il a dit à Jésus, moi je voudrais bien être guéri. La situation, tu ne la connais pas? Mais pendant que moi je descends dans la piscine, quand l'ange a agité l'eau, quelqu'un descend avant moi. Alors, j'ai essayé de le comprendre. J'ai essayé de le comprendre. En essayant de le comprendre, je me suis arrêté plus profondément sur les cas qui étaient là. Par exemple, l'aveugle, il entendait quand l'ange agitait l'eau. Mais s'il voulait essayer d'y aller, tellement d'obstacles, il butait son malade par là, il butait par là, jamais il ne serait arrivé. Le boiteux, il a entendu le bruit de l'eau, mais il est boiteux, il peut pas y arriver. Le paralytique, il entend le bruit de l'eau, mais il est incapable de bouger. Donc chacun avait un handicap personnel. Vous savez quel est le handicap qui est le vôtre. Vous connaissez la situation qui vous fait souffrir. Moi, je ne la connais pas, mais Jésus la connaît. Et quand Jésus a posé la question à ce monsieur, « Veux-tu être guéri ?» Il a répondu, « Je voudrais bien être guéri, mais pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Ça veut dire, il voulait dire à Jésus, un peu ce qui est commun aujourd'hui, s'il pouvait s'exprimer en prenant un langage du monde, il dirait, pour moi, je n'ai jamais eu de chance dans ma vie. Il aurait mis ça sur le dos de la chance. Dites-moi, frères et sœurs, vous croyez que c'est de la chance qu'il lui fallait? Même si toutes les chances du monde lui étaient données, jamais ça n'aurait marché. Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de foi. C'est une question de foi, de comprendre l'amour de Dieu et sa grâce, et d'agir en conséquence. Alléluia. Parce que lorsque la grâce de Dieu se manifeste, il y a une main qui se tend dans votre direction. Il y a une puissance de Dieu qui dégage ce qui est étranger. Il y a une invitation qui vous a adressé. Il y a le Saint-Esprit qui entre en action et les choses sont bousculées. Ce qui est établi, le Seigneur le dégage. En fait, grand fait, vous puissiez dire, oui, aujourd'hui, c'est mon jour, comme ça s'est passé à Jéricho pour le monsieur qu'on appelait Bartimée, à Jéricho. C'est un monsieur qui était aveugle. La Bible nous dit que Jésus passait par ce village de Jéricho. Et là, quand Jésus est arrivé à Jéricho, la foule le suivait. Mais comme j'aime à le dire, ma petite sœur, si Bartimée était aveugle, béni soit Dieu, Bartimée n'était pas sourd. Et vous savez, lorsque vous êtes estropié de membres aveugles, vous avez une amplification qui se passe au niveau de l'ouïe. Votre oreille entend beaucoup mieux que celui qui n'est pas aveugle. Alors, Bartimée était aveugle, mais n'était pas sourd. Il a discerné ce jour-là, puisque la question a été posée, qu'est-ce qui se passe? On lui a dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Chers amis, aujourd'hui, Jésus de Nazareth est au milieu de nous. Alors, vous savez qu'a fait Bartimée? Il a dit, aujourd'hui, c'est mon jour. C'est-à-dire, sa déclaration, son attitude a été de montrer qu'il ne veut pas laisser passer l'opportunité qui lui est offerte. Alors, Bartimée a crié beaucoup plus fort que d'habitude. Oh, ceux qui étaient autour de lui lui ont dit, tais-toi! Ton cri ne nous dérange! Faut pas crier comme ça! Écoutez, quand c'est pas vous qui souffrez, le cri de l'autre vous dérange toujours. Mais il ne s'est pas laissé faire. Alors il a compris que ce jour était son jour. Comme monsieur et madame, aujourd'hui, c'est votre jour. Alors il a crié plus fort. Et sous le cri de Bartimée, l'oreille de Jésus a été frappée. Car Bartimée a poussé un cri de foi. Et sous le cri de foi de Bartimée, Jésus-Christ n'a pas pu aller plus loin. Il s'est arrêté et Jésus a ordonné qu'on le lui amène. Et les mêmes gens qui ont voulu le faire taire au départ, ce sont les mêmes qui ont changé leur fusil d'épaule et qui ont commencé à manifester ce qui est dans la nature humaine, qu'on appelle la flatterie, Ils ont commencé à dire à Bartimée, prends courage. Prends courage, il t'appelle. Hypocrite. Mais quoi qu'il en soit, béni soit Dieu, Bartimée est arrivé devant Jésus. Quand il arrive devant Jésus, il est toujours aveugle. Hein? Il est toujours aveugle. Mais Jésus lui a posé la question, comme cet homme dans la piscine de Bethesda, que veux-tu que je te fasse? Rabbi, Rabbi, ah, oh, Rabbi, enfin, que je recouvre la vue. Et pendant qu'on lui disait cela, Jésus lui a dit, va, la foi t'a guéri. Voici que l'aveugle de naissance nommé Bartimée, la Bible nous dit qu'il a été délivré instantanément. Et voici que l'aveugle maintenant a changé de position, il a retrouvé la vue, et qu'est-ce qu'il fait? Il suit Jésus dans le chemin. Alléluia! Vous voyez comment il marche? Tellement il est content, il est libre, il est délivré, il suit Jésus. Cet après-midi, il faudrait que tu fasses un peu la même chose. Que tu suives Jésus qui délivre les captifs. Jésus qui envoie libre les opprimés. Jésus qui est au milieu de nous. Jésus qui vous aime. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Mais dans tout ce que nous venons de dire, toutes ces personnes qui étaient là dans cette piscine, pour que toutes ces personnes soient délivrées, il fallait payer la note. Écoutez, la Bible nous parle du salaire du péché qui est la mort, hein? Mais il nous parle aussi du don gratuit de Dieu qui est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors pourquoi Jésus-Christ les a-t-il libérés, délivrés? C'était comme une anticipation parce qu'il savait qu'il allait payer autant le prix de leur guérison que le prix du rachat de leur âme. C'est pourquoi, lorsque les temps ont été accomplis, nous retrouvons Jésus dans l'évangile de Luc. Et la Bible nous dit que Jésus prit la résolution de monter à Jérusalem. Où? Jérusalem, la ville sacerdotale. Jérusalem, là où vous avez cette piscine. Mais Jésus-Christ ne prendra pas ce jour-là la direction de la piscine, mais après avoir été arrêté, il va être amené vers le lieu qu'on appelle le mont Golgotha. Alors là, c'est un divin rendez-vous où Jésus devait payer la rançon du rachat de l'âme de toutes ces personnes qu'il a délivrées. La Bible nous rend le témoignage dans Acte 10, 38. Dans la maison de Cornée, l'apôtre Pierre déclare, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. » En commençant son ministère, la Bible nous dit qu'il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Partout où Jésus est passé, mais il y a eu des vies transformées, des maladies guéries, des lépreux purifiés. Mais tout cela, Jésus devait payer la note parce qu'il savait que toutes ces personnes qu'il guérissait, il fallait que le châtiment qui leur était destiné tombe sur lui. Et c'est ça qui s'est passé à la croix du calvaire. Vous avez vos Bibles, vous lisez Luc 23, verset 33. Et la parole s'ouvre par cette déclaration. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que deux brigands, l'un à droite et l'autre à gauche. Et Jésus fait cette déclaration, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et la Bible nous dit que les magistrats étaient là, il y avait le peuple qui était là, il y avait les magistrats, il y avait les soldats. Mais tous regardaient ce qui se faisait comme un spectacle vécu. Mais ils ignoraient que Dieu réglait la question du péché dans le cœur de l'homme. Il réglait la dette. Jésus se livrait comme le substitut. Substitut, c'est celui qui prend la place de. Jésus prenait ta place de condamné pour qu'aujourd'hui, la grâce de Dieu te soit accordée. Parce que c'est ça qui est merveilleux. La grâce de Dieu, c'est de permettre à un condamné de passer de l'état de condamné à l'état de gracié. Un pécheur passe à l'état de sauvé. un misérable passe à l'état d'une vie nouvelle, pleine et entière en Dieu et en Jésus-Christ. Enfin, prenez tous les superlatifs que vous voyez, que vous voulez, et voyez maintenant ce que Jésus est capable de faire pour vous, monsieur, madame. Il a payé le prix du rachat de ton âme. La Bible nous dit par anticipation dans les psaumes, le châtiment qui nous donne la paix. Par les psaumes, c'est Isaïe qui le dit dans Isaïe 53, que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus a enduré l'opposition de la part des pécheurs. Et la Bible nous dit qu'il a méprisé l'ignominie en vue de la joie qui lui était réservée. Parce que sans effusion de sang, ma petite sœur, Hébreux 9, 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Fallait bien que le sang de Jésus coule de ses pieds, de ses mains, de son côté. Car la vie de l'âme est dans le sang. Et il fallait que Jésus, comme le parfait substitut, règle la note. Voilà pourquoi cet après-midi, monsieur, madame, pour finir le message, il y a pour vous qui avez entendu ce message, une invitation, une déclaration du Seigneur, la même qu'il fit lorsqu'il commençait dans l'évangile de Matthieu chapitre 4 verset 23, où la Bible nous dit que dès lors Jésus commençait à prêcher. Et commençant à prêcher, il leur disait, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Jean-Baptiste, il a délivré dans les déserts de Judée le même message. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Les apôtres, lorsqu'ils se partaient en mission, ils délivraient le même message. Repentez-vous. Pourquoi se repentir, pasteur? Parce que le péché vous sépare de Dieu. Le péché vous plonge dans la mort spirituelle, quoi que vous soyez vivant physiquement. Vous êtes incapable de quelque changement que ce soit, ni de rien produire pour satisfaire Dieu. Dans sa justice, il fallait que le coupable paye pour sa mauvaise conduite. Mais quelqu'un s'est levé. Prophétiquement, Isaïe a dit, « Me voici, envoie-moi. » Jésus est venu, et c'est lui qui a réglé la dette. Voilà pourquoi cet après-midi, la grâce de Dieu n'était pas imposée, mais était proposée. Une main d'amour se tend avec toi. Vas-tu l'accepter? Vas-tu enfin reconnaître qu'il est temps pour toi d'ouvrir à Jésus ton cœur? De te tourner vers lui pour lui dire, Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi. Seigneur, secoue-moi. Seigneur, sauve-moi, libère-moi, délivre-moi. Seigneur, je suis malade, guéris-moi. Couvre-moi la tête et prions le Seigneur.